J'aimerais juste une chose ce matin, vous apporter une parole très simple. Et le souhait de mon cœur, c'est que les uns et les autres, en ressortant de ce lieu, nous ayons cette pensée, j'ai de la chance. J'ai de la chance parce que j'ai Christ. J'ai de la chance parce que je suis chrétien. J'ai de la chance parce que je lui appartiens. J'ai de la chance. On imagine mal, nous, dans nos milieux, on s'habitue à être chrétien. On vient à l'église, et je ne veux pas dire que ça devient une habitude, mais c'est un peu ça quand même, parfois, c'est un peu ça. Parfois, il faut s'arrêter et puis réaliser le privilège que nous avons d'appartenir à Dieu. Juste ça. Je serais heureux, j'ai beaucoup travaillé pour préparer ce message, et je me disais, j'ouvre une parenthèse, il y a quelqu'un, une amie, qui m'a donné un papier sur la communication, et ce papier, j'ai commencé à le lire, et il est dit au départ qu'on ne retient que 10% de ce que l'on dit. Et je me disais, Seigneur, c'est pas possible que 10%, c'est pas possible. Alors je me suis dit, mais dans ces 10%, tu voudrais qu'il y ait quoi? Ben juste cette chose, j'ai de la chance d'appartenir à Christ. J'ai donné un titre à ce message, le jardin à côté est plus vert. Le jardin d'à côté est plus vert, le champ d'à côté est plus vert. C'est une expression qu'on a souvent pour dire, eh bien, à côté c'est mieux. Un ami, un jour, je travaillais, il vient me voir, il me dit, quand je travaillais au CEV, il vient me voir et puis il me dit, Dominique, dans mon église, c'est le réveil, il y a des bénédictions, il y a ci, clac, clac, clac. Il m'encourageait presque à venir dans son église, voyez-vous. On a toujours l'impression qu'à côté, c'est mieux. Merci, si le Seigneur les bénit. Mais nous aussi, nous avons bien, voyez-vous. Je vais vous parler d'un homme en introduction, un homme qui s'appelle Démas. C'est dans 2 Timothée, au chapitre 4 et au verset 10. Voilà, c'est juste une petite phrase. Et puis, il est dit, « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. » On va parler de Démas, mais juste avant, on va juste prier un instant. Et juste demander à Dieu qu'il bénisse la prédication, qu'il bénisse la parole. Vous êtes d'accord avec ça? Jean-Marc, s'il te plaît, tu veux demander au Seigneur, s'il te plaît, mon frère.
Car éternel, il est vrai que nous sommes dans ta maison, que nous y sommes bien, et ce moment, c'est un moment précieux, précieux.
Jésus.
Merci pour mon cœur, pour nos pensées, ces paroles que nous emporterons chez nous. Merci pour notre frère. Merci pour le bénéfice de la vie. Merci de le rassurer. Et merci pour ce que tu vas mettre dans sa bouche ce matin encore. Merci. Que ton nom soit loué, oui, exalté, adoré. Père éternel, amen.
Et l'Église dit
amen.
Amen. Gloire à Dieu. Démas, c'était pas n'importe qui. C'était pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a travaillé dans l'œuvre de Dieu. C'est quelqu'un qui a aidé au ministère et qui a travaillé pendant des années avec l'apôtre Paul. Démas est cité à plusieurs reprises eh bien dans la parole de Dieu, dans l'épître aux Colossiens, dans l'épître à Philémon, voyez-vous. Et quand j'ai regardé les dates à peu près, ça a été écrit à peu près en l'an 60. Et le passage que nous venons de lire dans 2 Timothée, eh bien ça a été écrit en 67. Donc on imagine déjà que pendant cette année, il a travaillé, il a suivi l'apôtre Paul. On sait que ce n'était pas simple. Souvenez-vous de Barnabas, Jean surnommé Marc. Peut-être pas pour rien que j'ai demandé à Jean-Marc. Jean surnommé Marc. Il y a eu un problème lors du deuxième voyage. Barnabas a voulu emmener son cousin Marc et Paul n'a pas voulu. On voit que pour l'apôtre Paul, eh bien, il fallait remplir des critères très élevés pour le suivre, pour travailler avec lui. Et Démas a fait partie de ces hommes. C'était un frère exceptionnel. C'était un ancien qui prêchait l'évangile, qui annonçait la parole. C'était quelqu'un de bien. C'était un frère exceptionnel. Mais voilà, à un certain moment, il s'est passé quelque chose dans sa vie et le jardin d'à côté a paru plus vert. Il a eu l'impression eh bien, qu'à l'extérieur, c'était mieux. Sinon, il serait resté. On est bien d'accord avec ça. Hein, c'est pas... voilà. Il a eu l'impression qu'à l'extérieur, c'était meilleur, c'était mieux. Il a eu cette impression eh bien, qu'à l'extérieur, il serait plus heureux. Plus heureux. Et il est parti, mais il n'est pas parti parce que la charge était trop lourde. Il aurait pu partir et puis rester dans l'église et faire autre chose. Il est parti, et c'est précisé, par amour pour le siècle présent. Par amour pour le siècle présent. Alors je m'interroge, je me dis, mais mince, c'est quand même incroyable. un homme de Dieu, quelqu'un qui a aimé le Seigneur, qui a servi, qui a consacré sa vie d'une façon difficile, qui a consacré donc sa vie, il arrive à un moment, et puis voilà que tout bascule, et il est simplement dit que Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il a tout perdu, Démas. Il a tout perdu. Mais je me pose la question, mais comment peut-on imaginer cela, tout laisser, tout abandonner, par amour simplement pour le siècle présent? Et je suis convaincu que cet homme, lorsqu'il a rendu témoignage, il a dû dire, comme nous aussi on le dit, mais le monde ne m'avait rien apporté. J'ai été heureux de rencontrer Christ. Ça faisait partie de son témoignage, vous comprenez? Ça faisait partie de sa vie. Et voilà qu'à un certain moment, eh bien, le monde à l'extérieur lui a paru plus beau, plus intéressant, plus attractif, et il s'est dit, je serai mieux, ma vie sera meilleure, eh bien, à l'extérieur. Et boum, il est parti. Pierre a cité Nicodème. J'aime beaucoup Nicodème. Voyez-vous, et Nicodème, c'est un symbole de réussite. Nicodème, pharisien, il faisait partie du Sanhédrin, 70 membres, c'est un peu nos députés, sauf qu'ils étaient moins nombreux, il y avait 70, nos députés et puis nos sénateurs. Voyez-vous, c'était les dirigeants du pays. Nicodème en faisait partie, c'était un symbole de réussite. Pharisien, c'était quelqu'un, Nicodème. Et sûrement que beaucoup de gens regardaient Nicodème comme un exemple, disant à leurs enfants, écoute, travaille bien à l'école et tu seras comme Nicodème. Voyez-vous, tu seras comme Nicodème. Ils avaient cette image-là. Mais quand on regarde la vie de Nicodème, Nicodème était vraiment insatisfait, insatisfait. Je veux juste te dire qu'il faut faire attention quand on regarde. J'ai des amis, ils avaient un couple à côté de chez eux, super situation, le gars pilote dans la patrouille de France, tout, très beau, sa femme aussi, couple magnifique, tout, très très heureux, et puis formidable, formidable. Et peut-être qu'une femme disait à son mari, t'as vu comme lui il est gentil avec sa femme, voyez-vous? Et puis peut-être aussi que le mari disait aussi à sa femme, ouais, t'as vu comme elle est gentille avec son mari, voyez-vous? Voilà, c'est ça. Et quelques temps après, ils divorçaient. Vous voyez, il faut faire attention, il faut faire attention à ce que nous voyons, il faut faire attention. Moi, j'aimerais avoir l'exemple d'un homme qui a tout essayé, ce qui peut nous tenter. Parce que lorsque nous traversons des difficultés, lorsque nous passons par des épreuves, lorsque nous passons parfois par un vague à l'âme, par des difficultés, disons, voilà, eh bien, on est dans une position de faiblesse. Voilà, on est dans une position de faiblesse. Mais il y en a un qui ne faiblit pas. Il y en a un qui ne faiblit pas. C'est l'adversaire de nos âmes. Voyez-vous, il connaît ces moments de faiblesse et il est capable de nous tenter et il sait nous tenter. Voyez-vous, il y en a certains, ce n'est pas avec un verre de vin qu'on va les tenter. Il y en a d'autres, ça sera avec autre chose. Il connaît, il sait. Il sait nos points faibles et il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre pour nous tenter quand on est dans des moments de faiblesse, de difficulté, et pour nous faire miroiter certaines choses. Voilà, eh bien, peut-être que si tu pouvais avoir une vie pas avec tant de contraintes que la vie spirituelle, que tu puisses, par exemple, mentir. Il y a des fois, mentir, un petit mensonge, franchement. Qu'est-ce que c'est qu'un petit mensonge? Si ça permet un peu de faire des économies, franchement, hein, un petit mensonge. J'espère que ce n'est pas enregistré, mais il ne faudrait pas citer que ce passage. Hein, parce que, attendez la suite. Voyez-vous, de regarder la femme d'à côté, elle est vraiment belle, et puis qu'on voit que son épouse a vieilli, mais on ne s'est pas rendu compte que nous aussi, on a vieilli. Voyez-vous? Non, mais vous savez, il faut faire très, très attention. Parce que nous avons quelque chose de très précieux que le diable s'efforce, jour après jour, de nous enlever. Et il y en a certains qui se font piéger, qui se font prendre, qui se font avoir. Ça, c'est un langage que l'on comprend, voyez-vous? Et ça, c'est terrible. On peut regarder avec envie, eh bien, de dire, oh là là, la réussite de telle ou telle personne qui n'ont pas de scrupules. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour comprendre ça. Il suffit de lire le livre d'Habacuc. Habacuc a été révolté à l'égard de ces choses, pensant que celui qui vivait dans le péché, que celui qui pouvait tout se permettre, eh bien, réussissait mieux que celui qui appartenait à Dieu. Ce n'est pas cohérent. Il y a une différence entre celui qui appartient à Dieu et celui qui n'y appartient pas. Et nous, cette différence, on voudrait que si tu appartiens à Dieu, tu es béni. C'est clair. Et si tu n'appartiens pas à Dieu, tu n'es pas béni. Bon, ce n'est pas toujours comme ça. Lisez le livre d'Habacuc et vous allez voir qu'Habacuc, eh bien, lui, il voyait un peu les choses comme ça. Mais la réalité, ce n'était pas ça. Ça veut dire qu'on peut être troublé. On peut être troublé à des moments et se retrouver dans une période de faiblesse. Et là, tout devient possible. J'aimerais connaître un homme qui a tout essayé, qui a été riche. Un homme qui a possédé des biens, plein de biens. C'est souvent ce qui nous attire, le matériel. Qui a eu plein de choses. Qui a eu des femmes. Ça vous choque peut-être que je parle comme ça, mais la parole de Dieu en parle. Qui a eu ça. Et aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de problèmes à cause de ça. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Moi, j'ai travaillé. J'étais en administration. Mais, non, vous ne devriez pas rire. J'enlève ce que j'ai dit. Mais je vois, j'ai vu les conséquences, voyez-vous. Nos yeux, parfois, regardent des choses et on a l'impression que les choses sont magnifiques. Ça me fait penser un peu à ces insectes la nuit. Vous allumez une lampe et vous voyez que les insectes, ils arrivent et puis ils se cognent contre la lampe. Alors en plus, si vous mettez des petits fils avec une haute tension, je ne vous dis pas ce qui se passe pour les insectes, voyez-vous. Mais ils sont comme aveuglés. J'aimerais connaître un homme qui a tout essayé. Le gars, dès qu'il avait envie de quelque chose, boum, il l'avait. Le dernier iPad. Je ne sais pas si c'est le 9, le 10, le 11, je ne sais pas. Je le veux, je l'ai. Ça, la plus belle voiture, ça, qui, tout. Et j'aimerais savoir ce qu'il a ressenti, ce qu'il a vécu, ce qu'il a expérimenté, qu'est-ce que ça lui a apporté. Et moi, j'aimerais savoir, s'il me dit, j'étais super bien, alors à ce moment-là, allons dans son sens. Ou qu'il me dise, ça n'a pas été exceptionnel. J'aimerais connaître ça. Il y a un homme, il s'appelle Salomon. C'est étonnant. Dieu a voulu que dans sa parole, il y ait un exemple, un homme qui est tout. Mais au-delà de ce que l'on peut imaginer, parce que nous, on a peut-être des rêves qui sont limités en fonction de ce que nous possédons, de ce que nous avons. Moi, je ne vais pas rêver m'acheter une Ferrari. Il n'y a pas assez de place dedans. Mais, voyez-vous, on est toujours conditionné par ce que nous avons. Lui, il n'avait pas de limite. Alors, je vais vous lire quelques versets pour bien vous montrer ce qu'a fait Salomon. Mais après, j'aimerais aussi vous montrer les conclusions de cet homme. Mais ça pourquoi ? Juste pour vous rappeler, pour vous dire que le diable nous trompe en nous faisant miroiter des choses à certains moments de nos vies. Quand on est en forme spirituelle, on rigole. On se dit non, ça n'a pas de valeur. Mais parfois, quand la vie se charge, de nous accabler. Quand parfois on passe par les difficultés, l'épreuve. Et vous savez, ne rigolez pas, personne n'est épargné. L'épreuve, elle arrive vite, voyez-vous. Et des fois, on se croit fort spirituellement. On a l'impression qu'on est balèze, que rien ne pourra nous ébranler. On a cette impression parfois. Mais après, vous savez, quand vous passez par le creuset, par le malheur, par la souffrance, on se rend compte qu'on n'est rien et que celui qui est tout, c'est Christ. C'est Christ. Que le seul qui est tout, c'est Christ. On lui rend gloire. Alors, on va regarder Salomon, notre ami. Je ne vais pas être très, très long, ne vous inquiétez pas. L'Ecclésiaste. J'ai pris tous ces versets dans l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, ça vient d'Ecclésia, assemblée, celui qui enseigne. Voyez-vous, j'espère que l'enseignement de la parole de Dieu nous sera profitable. Je pense à cette parole, vous savez, j'ouvre une parenthèse. Quand on dit aux enfants, ne touche pas, ça brûle. Voyez-vous, c'est embêtant parce que souvent, ils ne croient pas sur parole. Et donc, ils ont besoin de toucher. Et c'est qu'au moment où ils se sont brûlés, qu'ils se disent, tiens, mon père, il avait raison. Mais alors, je me dis peut-être qu'avec les conseils de la parole de Dieu, on pourrait prendre quelques raccourcis. Et au lieu de tendre la main pour se brûler, se dire, effectivement, ça brûle. Alors donc, je ne tends pas la main. C'est un peu ça mon espoir. Ecclésiaste 2.8. Je m'amassais de l'argent et de l'or et des richesses des rois et des provinces. Salomon a bénéficié d'une période d'accalmie. Il y a eu juste une guerre du temps de Salomon, 40 ans de pouvoir. C'était une période vraiment super, voyez-vous, de prospérité. Il y avait beaucoup de commerce, il y avait des mines de cuivre, il exportait du cuivre. Il y avait beaucoup d'argent, d'or qui arrivait de l'or d'Ophir. Vous savez, vous connaissez ces passages. Ça marchait très bien. Ça a été une période où l'économie était vraiment au beau fixe. La bourse était très élevée. Voyez-vous, ça marchait bien et les richesses arrivaient. Et Salomon, eh bien, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de partage à l'époque, ce n'est pas le sujet de la prédication, mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est que Salomon a accumulé des richesses à ne plus pouvoir les utiliser. À la fin, on pourrait se dire, à quoi ça sert d'avoir tant de richesses si c'est pour ne pas les utiliser? On pourrait se poser la question. « Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. » Donc Salomon a été grand. Il a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et Ecclésiaste, je vais continuer. « J'exécutais de grands ouvrages. Je me bâtis des maisons, je me plantais des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantais des arbres fruitiers de toute espèce. Je me créai des étangs. » Israël, c'est quand même pas un endroit... Créer des étangs, vous imaginez un peu la difficulté. Pour arroser les forêts où croissaient les arbres, j'achetais des serviteurs et des servantes. Plus besoin de faire la vaisselle, le ménage. Vous vous rendez compte? Et j'ai eu leurs enfants nés dans la maison. Donc c'est une prospérité qui a duré, voyez-vous, qui a duré. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Sur le plan matériel, il avait tout, 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 voyez-vous, tout ce qu'on peut imaginer. Il avait tout, Salomon, c'est incroyable. Regardez, il dit, « Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés, je vais y arriver, je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'est revenue. » Tout ce qu'il a désiré, cet homme, il l'a eu. Tout. On imagine mal aujourd'hui. Ici, il y a des gens qui sont très riches. On entend parfois certains noms. Et on imagine eh bien, qu'ils souhaitent, eh bien, ils peuvent se l'offrir facilement. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Salomon. Qu'est-ce que tu vas nous apporter comme conclusion? Qu'est-ce que tu vas nous dire? Parce que nous, de l'extérieur... On se dit, mais toutes ces choses, c'est franchement tentant. C'est tentant. J'aurais peut-être envie d'être riche, de posséder plein de choses. C'est tentant, c'est attractif. Il n'y a qu'à voir quand il y a des situations qui sont un peu bien payées, comment les gens se battent pour y arriver. Hein. Voyez-vous, l'argent, c'est terrible, l'argent. C'est quelque chose. Voilà. Il n'y a pas que ça. Il va se tourner vers le manger, le boire. Il le dit. Ecclésiaste 2.3, je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin. Et j'imagine que c'était du bon vin. J'allais dire que ce n'était pas de la piquette. Non, mais c'était du bon vin, du bon vin. Il a tout essayé, mais dans tous les domaines. Il a essayé dans tous les domaines, voyez-vous. Et puis, il pouvait s'offrir les meilleurs plats. Il y avait des gens sûrement dans le pays qui mouraient de la faim, enfin, voyez-vous. Mais lui, vraiment, il était dans l'opulence. Il pouvait s'offrir, j'ai envie de manger de ça, je ne sais pas quoi. Enfin, je ne vais pas trop parler de manger tout de suite parce que vous commencez peut-être à déjà avoir faim, ce n'est peut-être pas le moment. Mais il pouvait s'offrir tout, la meilleure table, les meilleurs vins. Voilà. Salomon pouvait l'avoir. Salomon l'avait. Il a goûté à cela. Les femmes. Alors là, c'est quand même... Vous êtes assis, hein? Bon, c'est bon. Mais moi, je ne cite que la parole de Dieu. Je ne cite que la parole de Dieu. Je me procurais, Ecclésiaste 2.8, je me procurais des chanteurs et des chanteuses et les délices des fils des hommes, des femmes en grand nombre. C'est la parole de Dieu qui le dit. Voyez-vous ? Alors déjà, pour se souvenir de l'anniversaire de votre épouse... Quand vous en avez beaucoup, imaginez, il y a intérêt à avoir un sacré ordinateur dans la poche pour ne pas oublier. Hein. Mais attendez, ça c'est un peu évasif, je trouve. Hein. Des femmes en grand nombre, ça veut dire quoi ? Grand nombre, ça veut dire quoi ? 3, 4, 10, ça veut dire quoi, grand nombre ? Ben, la parole de Dieu, elle nous répond. On regarde 1 Roi 11.1. Le roi, ça, et c'est intéressant ce passage, parce que ça nous ouvre quelque chose, ça nous montre aussi quelque chose. C'est que Dieu interdit, j'ouvre une parenthèse, ce n'est pas le sujet de la prédication, Dieu interdit certaines choses. Il n'interdit pas pour limiter nos libertés, il n'interdit pas pour nous bloquer, pour dire « toi tu es chrétien, tu n'as pas le droit de faire ça ». Il interdit certaines choses pour nous éviter de pleurer, pour nous éviter de souffrir. Je pense un peu, vous savez, c'est comme une terrasse en haut d'un petit immeuble, on met des barrières tout autour, des rambardes. Par contre, c'est demandé, c'est prescrit dans la parole de Dieu que si tu fais une maison, sur le toit, c'était des toits plats, de mettre des rambardes afin que personne ne tombe. C'est étonnant, c'est écrit dans la parole de Dieu. Et c'est comme si on disait, moi, non, les rambardes, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Et que je passe outre, voyez-vous. Ben imaginez, si vous passez par-dessus la rambarde, vous allez comprendre ce que c'est que la gravité. Vous allez comprendre, voyez-vous. La descente, ce n'est pas trop grave, c'est surtout l'arrivée qui va être pénible. Voyez-vous. Ce que je veux dire, c'est que Dieu a mis en place des limitations, des interdictions, non pas pour nous bloquer dans notre liberté, mais pour nous éviter de souffrir, pour nous éviter de pleurer, pour nous éviter d'être dans une détresse extrême, pour juste pour nous protéger, pour nous protéger. 1 Roi 11.1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Éthiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut, j'arrive pas à lire, 700 princesses pour femmes, et ce n'était pas suffisant, hein, et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Là, il a eu au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer. Imaginez, voyez-vous. Ce qui m'intéresse, c'est Salomon, dis-nous. Dis-nous ce que tu as ressenti. Salomon, dis-nous si tu as trouvé ce que tu cherchais. Il recherchait la sagesse, il recherchait le bonheur, il recherchait la satisfaction. Moi, je veux savoir maintenant. Ces gars, il a tout eu ce que j'aurai jamais, ce que vous n'aurez jamais. Mais il a tout eu ce qui peut nous tenter à certains moments de nos vies. Il a eu ces choses. Je voudrais savoir, Salomon, vous connaissez la réponse. Parce que Salomon, il va nous dire, Ecclésias 2,17, « Et j'ai haï la vie. » Ah bon ? Alors là, Salomon, je ne comprends pas trop. Avec tout ce que tu as eu, tu as haï la vie ? Moi, je ne sais pas, j'aurais aimé la vie, j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. Vanité, c'est vain, faible, c'est rien la vanité. Et en plus, dans l'hébreu, quand on met vanité des vanités, c'est le superlatif. Voyez-vous, c'est encore plus que vanité, c'est le summum de la vanité. Et lui, il dit, Salomon, c'est le summum de la vanité, tout ce que j'ai vécu. Il va le redire à plusieurs fois, 70 fois. Dans l'hébreu, le mot vanité est cité. Eh bien, dans l'Ecclésiaste, c'est Salomon l'auteur de l'Ecclésiaste, hein, eh bien, 37 fois. 37 fois. Le livre de l'Ecclésiaste, c'est les réflexions, ce sont les réflexions de Salomon. Ce sont les réflexions de Salomon. Il va citer 37 fois « vanité, vanité des vanités ». Et cet homme, il va nous dire « c'est rien, tout ce que j'ai vécu, c'est juste du vent ». Des masses, il s'est fait tromper, il a été trompé par du vent. Par du vent. Voyez-vous, c'est comme une ombre, il a voulu attraper quelque chose, c'était du vent, c'était rien. Et les conséquences ont été terribles. Et Démas, pourtant, il connaissait l'Ecclésiaste. Il connaissait le livre de l'Ecclésiaste. Il l'avait sûrement lu, sûrement étudié. Et à l'époque, on apprenait souvent les choses par cœur, des psaumes entiers par cœur. Et le livre de l'Ecclésiaste aussi, voyez-vous. Il connaissait cet exemple, voyez-vous. Il a tout laissé pour du vent. Franchement, ça vaut le coup ? Franchement, ça vaut le coup de tout laisser pour du vent ? Ça vaut le coup ? Le seul problème, c'est que quand on est dans la difficulté, eh bien, on a l'impression que le vent, c'est une réalité, que c'est quelque chose de formidable. Nos yeux nous trompent. Nos yeux nous trompent. J'aimerais continuer avec la réflexion de Salomon, les conclusions de Salomon. Écoutons la fin, c'est la fin du livre d'Ecclésiaste, au chapitre 12, au verset 15. Écoutons la fin du discours. Ne vous inquiétez pas, après je vais conclure. Voilà. « Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. » Voyez-vous, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Cet homme, il essaye tout, et à la fin, il fait le bilan et il arrive à la conclusion, crains Dieu. Ce qui est bon pour ma vie, ce n'est pas l'abondance que j'ai eue, ce n'est pas de profiter de tout ce que j'ai eu, ce n'est pas tout ce que j'ai eu, voyez-vous, mais c'est de craindre Dieu. C'est de craindre Dieu. J'en arrive à la conclusion que nous avons, en tant que chrétiens, eh bien, ce que Salomon, lui, rêvait d'avoir, ce que Salomon a cherché pendant une grande période de sa vie, nous l'avons. C'est pour ça que je vous dis, vous avez de la chance d'appartenir à Christ. Vous avez de la chance de connaître le Seigneur. Quand je dis vous, nous avons. Et je vous garantis que souvent dans mes prières, je bénis Dieu de ce que je le connais. J'aurais pu passer à côté. Je connais ma vie, vous savez, les choix que nous faisons. Quand il faut donner son cœur à Dieu, ce n'est pas toujours simple. On a l'impression, quand on rend témoignage, que c'est une évidence. Mais il y a des combats. Et le basculement à ce moment-là, ça tient à quoi ? À peu de choses. Et je me dis, mais si j'avais dit non ce jour-là, vous savez, c'est un peu comme des portes qui s'ouvrent. Il y a une porte qui s'ouvre et on sent qu'il faut s'y engager. Je pense souvent à ça. Moi, je me rappelle de cette porte dans ma vie qui s'est ouverte. Et franchement, j'avais cette impression qu'il fallait que je passe cette porte, que je m'engouffre. Et je bénis Dieu à cause de cela. Mais en raisonnant par l'absurde, j'estravague, comme dirait quelqu'un que j'aime beaucoup, l'apôtre Paul. Eh bien, si je n'avais pas pris à ce moment-là la décision, voyez-vous, ça tient un peu de choses. C'est des combats. Il n'y a rien de simple quand on veut suivre Dieu. Il n'y a rien de simple. Eh bien, quand on veut s'engager avec Dieu, vous savez, on a l'impression, oh, ben, je suis heureux, je suis... Non! Non, quand on veut s'approcher de Dieu, il y a des combats. Quand on veut s'approcher de Dieu, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, pourquoi ? Parce qu'il y en a un. Il y en a un qui va essayer, qui essaye et qui essaiera toujours eh bien, de nous dire, tu sais, ne t'engage pas. Tu ne pourras plus faire ci, tu ne pourras plus faire ça. Tu ne pourras plus, ma sœur, elle est auprès du Seigneur, elle est revenue à Dieu, béni soit le Seigneur, je bénis Dieu à cause de cela. Mais elle me disait, Dominique, s'approcher de Dieu, être chrétien, mais c'est supprimer ça, c'est plus faire ça. Et elle en avait des, ça. Et voilà, pour certains, être chrétien, c'est une suite d'interdictions, voyez-vous. Et voyez-vous, c'est pas facile de prendre cette décision. Par contre, je ne veux pas rester là-dessus, parce que c'est vrai que c'est difficile. Mais moi, j'ai choisi. Je sais que beaucoup ont choisi. Quand on réalise ce que Dieu apporte, quand on voit ce que Dieu fait, ce que Dieu donne, comment il prend soin, quand on voit après comment Dieu s'occupe de nous, j'aurais des exemples à donner, mais on n'a pas le temps, mais vous avez aussi dans vos cœurs, dans vos esprits, des exemples. Quand on voit ce que Dieu est capable de faire, d'apporter, on se dit, mince, j'aurais été bien bête de dire non. Franchement. Et quand on lit l'exemple de Démas, on se dit, quel insensé, que Dieu nous garde. Je vais vous lire quelques versets et après je conclurai juste par un verset. Proverbe 38, « Ne me donne ni pauvreté ni sagesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire de peur. » Regardez, « de peur que dans l'abondance, je ne te renie ou ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de l'Éternel. » Quelle sagesse ! Cet homme, C'est Agur, pas très connu Agur. Mais enfin, il est cité dans la parole de Dieu. Il a cet honneur, il est cité dans la parole de Dieu. Agur, c'est pas le fromage. Hein. Agur, c'était un nom. Un nom. Voilà, c'est un homme qui a cité ça, et cet homme, il dit à Dieu, ne me fais ni riche ni pauvre. De peur que si je suis riche, je ne t'oublie, et que si je suis pauvre, eh bien, je ne te maudisse. Voyez-vous, pourquoi ? Parce que lui, il avait compris que l'essentiel, c'est pas ça. L'essentiel, c'était le Seigneur, c'était Dieu, c'était Christ. Je dis Christ à l'époque, il ne pouvait pas dire Christ, il n'était pas encore là. Mais pour, voyez, vous comprenez ? C'est Christ, c'est ça l'important, c'était ça l'important. Ne me fais ni riche ni pauvre, quelle sagesse, quelle sagesse, quelle sagesse. Hébreux 11, 13, 5, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. Ça, ce n'est pas un encouragement à ne rien faire. Ce n'est pas un encouragement à nous laisser aller, mais c'est un encouragement à mettre des priorités. Des priorités. C'est sûr qu'il y en a certains qui auront des vies plus aisées que d'autres. Ce verset, ce n'est pas de nous dire « ne fais rien ». Non, pas du tout, pas du tout. C'est juste dire « fais attention aux priorités ». Les priorités, ce n'est pas la réussite. La priorité, ce n'est pas d'avoir une bonne situation. Ce n'est pas ça la priorité. C'est pas ça la priorité. La priorité, c'est Christ. La priorité, c'est Christ. La vie passe vite. La vie passe vite, et c'est la conclusion aussi de Salomon, que le méchant, celui qui comprend rien, le débile, celui qui est très intelligent, tous, eh bien, ils arrivent tous à un même endroit, à la mort. Voyez-vous, la vie, ça passe vite. La priorité, c'est pas la réussite. Béni soit Dieu pour ceux qui réussissent. C'est formidable. Merci Seigneur. Moi, je me réjouis si mon frère, il a bien réussi. C'est formidable. Mais c'est pas ça la priorité. Si je me bats que pour ça, je perds tout. Je perds tout. La priorité, c'est Christ. La priorité, c'est Christ. Philippiens 3, 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. L'apôtre Paul, élevé au pied de Gamaliel, une éducation hors pair, voyez-vous, l'élite, l'exemple, l'élite, vraiment le symbole de la réussite. Et l'apôtre Paul dit, tout ça, ça n'a aucune valeur, ça n'a aucune valeur. Moi, il n'y a qu'une chose qui a de la valeur, c'est Christ, c'est Christ, c'est Christ, c'est ça qui a de la valeur dans ma vie, l'apôtre Paul, voyez-vous. J'aimerais juste vous dire que c'est peut-être pas la peine de chercher de tous côtés eh bien, à posséder, à avoir, à être heureux, parce que vous l'êtes déjà. Vous l'êtes déjà. Et si vous ne vivez pas, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose, voyez-vous. Si vous avez Christ, vous êtes réellement libre. Si vous avez Christ, vous êtes vraiment heureux. Et parfois, on pleure. Parfois, on pleure, mais il y a des moyens de s'en sortir. Et le moyen, ce n'est pas d'aller chercher ailleurs, parce que le pré d'à côté, il n'est pas du tout plus vert. Ce n'est pas vrai. Ce sont des mensonges. Vous avez ce qu'il y a de plus précieux. Vous avez la solution. Vous avez ce qu'il y a de mieux. Ce que beaucoup d'hommes auraient voulu avoir, même des gens très riches, et qu'ils n'ont pas. Nous avons cela. Nous avons Christ. Et ça, c'est l'essentiel. Et parfois, nous passons par des larmes et des épreuves, mais l'apôtre Paul le disait, eh bien, qu'il y a des fois, eh bien, il a mis un genou au sol, mais il n'est pas tombé. On peut mettre un genou au sol quand ça va mal, voyez-vous. Mais Christ est puissant. Qui est-ce qui dit « jusqu'ici, mais pas plus loin » Franchement, qui est capable de dire « jusqu'ici, mais pas plus loin » à l'épreuve? Qui est capable de dire « eh bien, que je vais prendre soin de toi ». Je vais prendre soin de ta vie. Je vais prendre soin de toi. Qui est capable de dire, en fait, ce n'est pas difficile, mais de l'appliquer, c'est surtout ça que je veux dire. C'est surtout ça que je veux dire, voyez-vous. Qui est capable de ça? Nous avons de la chance. Nous avons vraiment de la chance de connaître Christ. nous avons de la chance d'être à lui. Parce que si vous êtes dans la difficulté, eh bien peut-être qu'au lieu d'aller chercher de l'aide à droite, à gauche, peut-être vous pouvez juste vous tenir. Qui c'est qui a cité Müller, Georges Müller, qui demandait... C'est Fabienne. Voilà. Peut-être que vous pouvez simplement demander au Seigneur, tu vois ça, 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 ça. Vous savez, lisez le livre d'Habacuc. Habacuc, il a parlé très, très franchement à Dieu. Habacuc, il a parlé très, très franchement. Il a exprimé ce qu'il avait dans son cœur. Il a parlé très, très franchement à Dieu. Et nous pouvons aussi parler très, très franchement à Dieu. Dieu écoute la prière. Mais écoutez, écoutez, c'est super. On peut dire Amen, c'est super. Mais si on fait qu'écouter et qu'on ne peut rien derrière, c'est... Bon, c'est pas terrible. Dieu écoute, mais il agit. Dieu écoute, il agit. Je vous lis un dernier verset. C'est le psaume. Il a écrit deux psaumes. Salomon, le 32 et le 127. Voilà. Le 90, c'est Moïse. C'est ça, Moïse. Il a été à l'école biblique. Il sait tout ça par cœur. Le psaume 127, alors là, je ne l'ai pas... Voilà, c'est ça. Je vais le lire parce que là... Voilà. Cantique des degrés de Salomon. Regardez. C'est Salomon, c'est le même. Hein. C'est toujours le même qui écrit ce psaume, voyez-vous. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est clair. C'est clair. Si l'Éternel ne garde la ville... Ceux qui la gardent veillent en vain. Voyez-vous ? En vain. En vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est pas un encouragement à rien faire. C'est pas un encouragement à rien faire. Ce que je veux juste dire, c'est que quand vous avez donné votre vie à Christ, que vous êtes passé par les eaux du baptême, vous avez pris un engagement. Vous avez pris un engagement, je me souviens, moi. Mais Dieu, le Seigneur aussi, a pris un engagement à votre égard. Un engagement de vous bénir, de vous garder. Et vous savez, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour faire des promesses comme ça. Lui, on se disait, il faut être bien pauvre pour ne pas faire de promesses. Vous voyez ce que ça veut dire ? Pour être bien pauvre, vous imaginez cet homme, des promesses, il a dû en faire. Mais quand Dieu promet quelque chose, il l'accomplit, il l'accomplit. Dieu prend soin de nous, Dieu nous aide. Voyez-vous, il en donne davantage à ses bien-aimés. Nous sommes ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça veut dire que nous avons un objectif, c'est de suivre Christ, c'est de le servir, c'est d'arriver à la fin de nos vies, pour entendre qu'on nous dise « c'est bien bon et fidèle serviteur ». C'est bien bon et fidèle serviteur. Ça, c'est une parole incroyable. C'est bien bon et fidèle servante, serviteur. Voyez-vous, entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Nous avons tout pour être heureux. Vous êtes heureux, même si vous ne réalisez pas encore profondément. Et j'aimerais vous dire juste une chose, vous avez de la chance. Vous avez de la chance d'appartenir à Christ. Vous avez de la chance d'appartenir à Christ. J'ai de la chance aussi et je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Si vous saviez, je bénis Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour les encouragements de ta parole. Merci parce que tu es vivant, tu es puissant. Et nos vies, tu en prends soin. Merci, Seigneur, parce que nos vies, elles sont cachées en Christ, elles t'appartiennent. C'est sur toi que nous voulons compter. Mais jour après jour, nous voulons te louer, te remercier, te bénir. Tu es le maître de nos vies. Tu es celui que nous aimons, que nous chérissons. Et nous bénissons et nous louons ton nom. Nous te rendons l'honneur. Nous te rendons la gloire. Merci, 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 Seigneur.